Saint Thomas, faut dire qu'il avait dit quelques jours avant, quand 8 jours avant, quand les apôtres lui avaient dit que Jésus était ressuscité, Saint Thomas avait lancé une boutade en disant, si je vois pas les stigmates, les traces, des clous dans ses mains, la plaie de son côté, je peux pas croire. Et ce jour-là, donc 8 jours après, Jésus arrive alors que les portes sont fermées et il se présente devant Thomas. Vous voyez, Jésus savait que Thomas avait dit ça. Il n'était pas présent, pourtant physiquement, il n'était pas présent. Et dit à Thomas, tiens, regarde, avance ton doigt dans mon côté, dans la plaie du côté, où le soldat lui avait lancé la lance pour vérifier qu'il était mort. Et à ce moment-là, Saint Thomas le reconnaît et dit, mon Seigneur et mon Dieu. Avant, tout à fait à l'origine, quand Saint Jean a écrit son évangile, cet évangile-là, probablement que c'est ce passage-là qui terminait l'évangile. Après, Saint Jean a dû rajouter, plus tard, il a dû rajouter quelques passages des apparitions de Christ ressuscité. Mais à l'origine, ça se fait terminer là. C'est-à-dire que l'évangile de Saint Jean, pour nous donner la révélation de qui est le Christ, se terminait sur cette exclamation de Saint Thomas, Mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaissait que Jésus, tout en étant homme, était Dieu. Et comment on sait ça? C'est une supposition parce que Saint Jean a écrit dans son. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses que ça, que ce que j'ai raconté. Si on les écrivait, il en faudrait plusieurs livres. Mais je n'ai écrit que cela pour que vous croyiez. Et après, il y a encore d'autres choses. Et vraisemblablement, c'était la dernière phrase de son livre. Et on finit sur la reconnaissance que Jésus, qu'on voit comme homme, est Dieu. Et ça, c'est le plus important de notre foi chrétienne et orthodoxe, que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Les apôtres, ils l'avaient vu comme un homme. Ben oui, mais c'était un homme normal. Mais en plus, il était Dieu. Et ce qui était inimaginable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'imaginer, c'est que il était les deux à la fois, mais il avait la volonté, il avait même deux d'ailleurs, il avait une volonté en tant qu'homme et une volonté en tant que Dieu. Mais ces volontés faisaient qu'il pouvait se manifester aux hommes, montrer qu'il était un homme ou montrer qu'il était Dieu. C'est comme ça qu'à certains moments, quand il était sur le mont Tabor, par exemple, à la Transfiguration, il s'est montré comme Dieu. Alors qu'habituellement, il cachait sa gloire divine, on appelle ça, il cachait ce rayonnement, il cachait sa nature divine, il la cachait par sa nature humaine, par son aspect d'homme. Quand il faisait des miracles, c'était sa nature divine qui apparaissait. C'était en tant que Dieu, ce n'était pas en tant qu'homme, c'était en tant que Dieu qu'il faisait des miracles, qu'il guérissait des aveugles, des paralytiques. Et c'est comme ça qu'on sait que Jésus, cet homme que les apôtres ont vu pendant 3 ou 4 ans, que cet homme-là était aussi Dieu. Et c'est comme ça qu'il se présente à Thomas. Après sa mort, il était toujours Dieu et homme. Mais alors qu'il était glorifié, alors qu'il était passé au-delà de la mort, alors qu'il était ressuscité, il apparaît encore comme un homme. Cette fois-ci, une nouvelle fois, il cache sa divinité pour se présenter comme un homme. Sans quoi les apôtres croyaient que c'était un fantôme. Et je dis bien les apôtres, parce que ce n'est pas simplement Saint Thomas. Jésus s'adresse à Saint Thomas, oui, à cause de ce que Saint Thomas avait dit, en doutant, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Mais en fait, les autres apôtres, ils ne croyaient pas davantage. Eux aussi, ils avaient des doutes. La preuve, c'est que quand Jésus est apparu sur le lac, il a été obligé, alors qu'il était ressuscité, donc qu'il avait son corps glorieux, il a été obligé de montrer à ses disciples qu'il était aussi un homme. Et c'est comme ça qu'il a mangé devant eux. Ce n'était pas un fantôme. Un fantôme ne mange pas. Et là, il a montré qu'il était homme. Mais il s'est présenté comme Dieu. Je vais dire, c'est incroyable. Justement, c'est ça qu'il faut croire. Mais c'est extraordinaire. extraordinaire. Et dans une épître, Saint Paul, je reviens très souvent, j'explique très souvent ça, parce que c'est fondamental, Saint Paul explique que Jésus est Dieu, qui a toujours existé, avec son Père et avec l'Esprit Saint. Il n'a jamais eu de commencement, il est éternel. Mais qu'il s'est rapetissé, si on peut dire, il s'est humilié jusqu'à la condition d'un homme pour paraître auprès des hommes sans leur faire peur, sans les effrayer. Et on appelle ça d'un mot savant, mais il faut que vous connaissiez ce mot-là, parce que plus tard vous en entendrez parler, j'espère. Ce qu'on appelle la kénose. K-E-N-O-S-E. Kénose. Kénose, ça veut dire qu'il cachait, il s'est caché. Il a caché sa divinité à travers son humanité. Mais, là je vous explique de la haute théologie, là. Souvent on fait une confusion. Souvent on croit que sa kénose, son abaissement, c'était le fait de quitter le royaume des cieux, si l'on peut dire, sans le quitter complètement, mais de descendre sur terre et de se présenter comme un homme, comme si c'était ça, sa kénose. Ça en fait partie, mais ce n'est pas ça directement. Sa kénose, c'était la faculté qu'il avait, par sa volonté, parce qu'il la voulait, de cacher quand il le voulait, ou de laisser apparaître quand il le voulait, l'une de ces deux natures. Il se montrait tantôt comme un homme, tantôt comme Dieu. Mais il était toujours Dieu et homme. C'est comme ça qu'il s'est présenté comme un homme. Il est né comme un enfant, dans le ventre de sa mère d'abord. Et puis il est né, il a appris les choses, il a développé son intelligence, il a eu faim, il a eu soif. Il a été comme nous, il a été tenté comme nous. Et il a souffert comme nous. Donc il s'est présenté comme un homme. Mais en même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelquefois il se présentait comme Dieu. C'est comme ça qu'il faisait des miracles. C'est comme ça qu'il nous parlait du royaume des cieux, qu'il nous parlait des choses que personne ne peut connaître, sauf celui qui en est venu. Qui peut savoir comment est Dieu? Qui peut savoir quelle est la vie de Dieu? Qui peut savoir quelle est la vie des anges? Simplement quelqu'un qui en a fait l'expérience. Et lui, il en avait fait l'expérience puisqu'il est Dieu. Et il est venu sur terre, il a pris cette forme humaine pour nous expliquer, pour prendre notre vocabulaire aussi, pour prendre nos notions, pour nous expliquer toutes ces choses-là. Et à d'autres moments, donc, il se présentait uniquement comme un homme, et à d'autres moments, il se présentait comme un Dieu. Mais il était toujours les deux à la fois. C'est pour ça que les icônes du Pantocrator, les icônes du Christ, il avait ce phénomène, ce mécanisme, si je puis dire, qui est sa kénose, de pouvoir cacher pendant toute sa vie l'une ou l'autre. S'il n'avait pas eu ça, ça aurait été un mensonge. Étonné ce qu'est la gloire de Dieu, si à certains moments il n'avait pas caché sa gloire, il aurait fait semblant d'être un homme, il aurait fait semblant de souffrir, comme il le dit d'ailleurs à certains moments. Il dit, tu crois pas que j'ai des anges qui pourraient venir me défendre? Il aurait pu être sur la croix, qu'on le perce et tout ça, puis être complètement insensible puisqu'il était Dieu. Mais non, il a voulu justement souffrir comme nous, il a voulu être sensible comme nous. Et à ce moment-là, il fallait qu'il cache volontairement sa nature divine. Ça, c'est tellement important que ça conditionne notre vie à nous aussi. Nous sommes chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire que nous appartenons au Christ. Que nous avons la même vie que lui, puisque lui a pris la même vie que nous. Et puisque lui a renoncé par sa kénose, il a renoncé à sa vie divine, nous apprenons aussi à renoncer, non pas à notre vie divine, nous au contraire, on acquiert petit à petit la vie divine parce que Dieu nous la donne. On ne renonce pas à notre vie divine, mais on renonce en partie à quelque chose de notre vie, c'est-à-dire à notre volonté. Et toutes nos notions d'obéissance, d'abandon de la volonté propre, de patience, de préférence des autres, d'amour tout simplement, ça découle de cela. Parce qu'on est imitateur de Christ, pas imitateur formel, mais parce qu'on a la même vie que lui, on a sa vie à lui, donc on abandonne les mêmes, on abandonne nous-mêmes. Et quand, pour tous, l'obéissance nous est si difficile, et il faut essayer de penser à cela, que c'est comme cela qu'on manifeste, nous aussi, l'aspiration à la vie divine, et la grâce de Dieu vient et fait de nous. Au long de notre vie, quand Dieu sait que c'est mûr pour chacun d'entre nous, il nous amène, au contraire du Christ qui s'est abaissé dans une condition humaine, nous, il prend notre condition humaine, il la hausse à la condition divine. Et c'est ça la sainteté. Devenir saint, c'est devenir uni à Dieu. Et là, je vous ai trouvé là, les icônes là. Et ben, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus grande, mais vous voyez bien comment elle est. Vous voyez, Jésus a deux vêtements, un vêtement rouge et un vêtement bleu par-dessus. Le vêtement rouge, il représente en quelque sorte la gloire divine. Parce qu'il est Dieu, le rouge, c'était le vêtement des empereurs. César, il avait une cape rouge. C'est pour ça que les cardinaux catholiques sont en rouge aussi. Parce qu'ils étaient ils sont considérés comme ceux qui sont à côté de l'empereur. Parce que le pape se prend pour un empereur. Alors, comme ils sont à côté de l'empereur, ils avaient le droit à prendre les mêmes couleurs que l'empereur. Maintenant, il est en blanc. Pas l'empereur, mais le pape. Mais avant, il était en rouge. Donc, ça montre la royauté. Vous savez, dans l'évangile, à un moment donné, Jésus dit que même Salomon, dans toute sa splendeur, n'avait pas un vêtement aussi beau que le lys des champs. Le lys des champs, c'est une fleur qui ressemble un peu au coquelicot. Donc, une fleur rouge vif, comme du sang de bœuf. Et pourquoi il compare ça au vêtement de Salomon ? Parce que Salomon étant roi, il portait lui aussi un vêtement rouge. Et le lys des champs aussi en est une image. Donc, vous voyez, le rouge représente donc la gloire de Dieu. Et par-dessus, il y a un vêtement bleu, ou il peut être vert, ou il peut être violet, il a des nuances différentes, mais enfin, généralement vert ou bleu, et qui vient cacher. Ça exprime sa nature humaine, qui vient cacher sa nature divine. Mais comme à certains moments, il montre sa nature divine, eh bien, on voit qu'il y a une épaule qui se découvre, qui exprime ce phénomène de la kénose dont je vous en parlais tout à l'heure, vous vous rappellerez du nom, hein, qui manifeste qu'à certains moments, il montre, bien que sa nature humaine cache sa nature divine, à certains moments, il la révèle, il la montre. Et c'est pour ça que la fête d'aujourd'hui est tellement importante, parce que Jésus en tant qu'homme, on l'avait vu vivre, les apôtres en ont témoigné, mais on aurait pu croire que c'était simplement un homme. Quand il est mort, il est parti en tombe. Après, on n'a pas retrouvé son corps. On pourrait croire, comme les Juifs ont voulu nous le faire croire, on aurait pu croire que quelqu'un l'avait volé pour dire qu'il avait disparu. Mais il n'a pas disparu, puisque 8 jours après, le jour même d'ailleurs, le jour même de Pâques, il apparaît à ses apôtres. Il apparaît avec son corps, mais un corps glorieux, un corps qui n'a plus besoin de se nourrir, qui n'a plus besoin de, qui ne souffre plus, qui n'a plus besoin de penser pour savoir. Et c'est comme ça que les apôtres pouvaient croire que c'était un fantôme. Et pour bien montrer qu'il n'est pas un fantôme, il dit à Thomas, tiens, regarde, tâte-moi, viens, regarde que c'est bien moi. Et la même chose après quand il mange devant les apôtres au lac de Tibériade. Finalement, si les apôtres, les évangélistes nous racontent cette histoire-là, c'est d'une part pour nous montrer qui est le Christ, qu'il est vraiment Dieu et homme ensemble, mais aussi quand ils montrent cette impossibilité presque de croire naturellement, qui est celle de saint Thomas et des apôtres, c'est de notre histoire aussi. C'est facile pour vous de croire que Jésus est Dieu? Pour moi, ce serait plus facile si je le voyais. Ah, je dis comme saint Thomas. Et là, je ne le vois pas. À la communion, on me donne un peu de pain imbibé de vin et on me dit que c'est le corps du Christ, le sang du Christ. Je le crois parce que mon papa et ma maman me l'ont dit, des gens sérieux me l'ont dit, les saints l'ont affirmé, les apôtres l'ont dit. Mais moi, je vois que du pain et que du vin. Et pourtant, justement, comme dans ce cas-là, je réagis comme saint Thomas, mais comme le Christ, quand saint Thomas a vu Jésus, il a vu l'homme Jésus. Et il a compris que c'était Dieu, puisqu'il lui a dit mon Seigneur et mon Dieu. Et nous-mêmes, quand nous voyons ce pain et ce vin, nous pouvons dire mon Seigneur et mon Dieu. Et on a la même foi que saint Thomas, c'est-à-dire que on voit une apparence, on voit l'apparence du pain et du vin, mais cette apparence-là contient en elle-même une autre réalité, une réalité divine, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. Le corps et la nature et la vie du Christ.